Saint-François d'Assise. Et aujourd'hui, on va réfléchir sur François et le Sultan en sachant que François d'Assise a rencontré le Sultan. Et si on ne connaissait pas, si on n'avait pas entendu parler de cette rencontre, le pape François en parle dans Fratelli Tutti. Et il en parle aussi, il en parle d'autant plus qu'il a lui-même rencontré un imam qu'il cite souvent dans cette encyclique. Et ces citations récurrentes ont interrogé un certain nombre de
Oui,
chrétiens.
mais je parle pas tout le temps.
Ont interrogé un certain nombre de chrétiens, d'autant plus dans le contexte social où nous sommes, où la question des relations entre la société française et l'islam, ou entre les chrétiens et l'islam, est une question délicate. Donc c'est ce soir finalement une conférence qui n'a l'air de rien dans son titre, mais qui est pleine de conséquences et pleine d'échos dans la situation qui est la nôtre. Donc merci à Xavier Chavanne de prendre la parole aujourd'hui. Xavier est curé à Sartrouville, après avoir été longtemps curé des Mureaux. C'est-à-dire deux villes où la présence de l'islam est une présence importante. Et Xavier a à la fois l'habitude de cette proximité, mais la culture de cette proximité. Il a été longtemps délégué de l'évêque pour les relations avec l'islam. Et il ne l'est plus parce que, figurez-vous, qu'il n'y a plus d'évêque de Versailles. Alors, dans tous les cas, il ne pourrait plus l'être. Mais en tout cas, il en a gardé. Il continue à en garder la culture, l'intérêt, et puis des relations avec des musulmans de notre département et d'autres. Donc merci Xavier d'être là ce soir et nous t'écoutons.
Merci Pierre et puis merci à vous tous de m'accueillir. Et c'est avec joie que je vais pouvoir aussi parler de cette rencontre entre François d'Assise et Al-Malik Al-Kamil, le sultan de Damiette en Égypte et voir comment d'ailleurs cette rencontre a été inspirante. Alors, le propos, ben, il y aurait une petite introduction. J'espère pouvoir, en quatre parties, vous raconter ce que nous savons de cette rencontre. Dans une deuxième partie qui sera très courte, évoquer quelques sources coraniques et bibliques qui ont pu inspirer les protagonistes de cette rencontre. Et puis, dans une troisième partie, plus conséquente que la deuxième, le rayonnement de cette rencontre et jusqu'à nous aujourd'hui, dans une quatrième partie. Voilà. Et en introduction, eh bien, je vais demander à Stanislas s'il veut bien projeter deux images de Giotto qui rendent compte de cette rencontre. Une image dans la basilique Saint-François d'Assise et puis une autre qui est celle que vous voyez là sous les yeux, qui est celle qu'on trouve dans la basilique de Sainte-Croix à Florence et qui est une des toutes dernières peinture de Giotto et qui est là vraiment au sommet de son art. Mais alors, si on peut voir les deux, si peut-être Stanislas peut baisser, voilà, pour qu'on voit aussi la première qu'on trouve dans la basilique, voilà, et de la basilique Saint-François d'Assise. Oui. Alors, à chaque fois, dans ces deux images, les points communs, c'est qu'on a en gros trois groupes de personnages, d'une part, et un feu. D'une part, François, qui n'est pas seul, qui est accompagné d'un compagnon, qui est un jeune franciscain, le frère illuminé, et qui est en prière pendant que François prêche. Et puis, on voit aussi le sultan, El Malik Al-Kamil, qui semble dominer cette rencontre par, par sa position de chef et de sultan, et aussi par son autorité. Voilà. Et puis un autre groupe, un troisième groupe, qui sont l'entourage du sultan et qui représentent pour Giotto les théologiens musulmans qui ont été témoins de cette rencontre et qui éventuellement ont participé à peut-être une dispute théologique qu'il y a pu y avoir entre François d'Assise et eux-mêmes, mais qui semblent partir, quitter la rencontre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux images? C'est bien, Stanislas, si vous pouvez passer une fois de l'une à l'autre. Voilà, juste pour souligner dans la première image de Giotto, on voit François d'Assise au cœur, au milieu de l'image, et dans la deuxième image, on voit le sultan Al-Malik au centre de la rencontre. Peut-être une petite évolution dans la pensée de Giotto qui a vu cette rencontre, c'est combien finalement aussi cette rencontre va présenter de façon étonnante aussi une figure d'un chef musulman qui n'est pas le bourreau des chrétiens qu'on pensait ou le sanguinaire que l'on présentait à l'époque. Voilà. Vous voyez aussi donc sur la gauche de l'image, voilà les théologiens qui s'en vont, et parmi eux d'ailleurs un ancien dont on reparlera tout à l'heure et qui était proche du sultan Al-Malik. Trois groupes de personnages et un feu dans chacune de ces images, ce feu faisant référence à une histoire où au bout de quelques jours de rencontre, le sultan n'arrivant pas à départager François de ses théologiens, François lui propose de faire un feu et lui propose de se jeter avec les théologiens musulmans dans le feu, et comme ça Dieu lui-même décidera qui doit ressortir du feu vainqueur et qui possède la vérité. Voilà. Voilà, juste cette introduction pour nous introduire à cette rencontre. Maintenant, on peut peut-être laisser tomber ces images et puis revenir entrer dans la conférence en regardant ce que nous savons d'abord de cette rencontre. Que l'on peut dire, c'est que d'abord la question de savoir est-ce que cette rencontre a bien eu lieu, elle est attestée par tant de sources que nous avons la quasi-certitude que cette rencontre a eu lieu. Le seul regret que l'on peut avoir, c'est qu'on n'a pas de sources musulmanes qui nous en parlent. On a la source de plusieurs témoins de l'événement qui était présent. 16 sources différentes évoquent cette rencontre par 11 auteurs différents dans les 50 années qui ont suivi cette rencontre. Plusieurs franciscains parmi eux, la plus ancienne des sources est Jacques de Vitry, qui était évêque de Saint-Jean d'Arc, participant à la cinquième croisade. C'est au cours de cette cinquième croisade qu'a eu lieu cette rencontre, et qui est connu comme étant aussi un des grands historiens de cette période du Moyen-Âge. Et lui raconte cette rencontre déjà dans une lettre 2, 3 mois après qu'elle ait eu lieu, donc dès 1220. Le contexte de cette rencontre, c'est celui des croisades, et notamment cette cinquième croisade qui démarre en 1218, dont le temps fort est la prise de Damiette en 1219, et puis et qui se conclut par l'échec de cette cinquième croisade et par la défaite des croisés quand ils descendent vers le Caire. Là, on est au pied de Damiette, donc dans le nord de l'Égypte, et les croisés ont fait le siège de cette ville si importante. Dans cette ville est présent le sultan Al-Malik, qui vient de succéder à son père Al-Din, qui lui-même était frère de Saladin, et Saladin qui avait unifié, on peut dire, le monde musulman à la fin du XIIe siècle, et donc l'oncle de Al-Malik et le sultan de Damiette que François va rencontrer, et il est aussi le beau-père de ce nouveau sultan, hein, donc qui succède à Al-Din, son père, et qui lui-même succédait à Saladin, l'oncle du sultan que François va rencontrer. Que sait-on de ce sultan, en dehors de sa famille que je viens d'évoquer un peu rapidement? Ça a l'air d'être un homme très apprécié, reconnu à son époque. Déjà lors de la quatrième croisade, Richard Cœur de Lion avait manifesté une grande estime pour cet homme. Il l'avait qui était le fils de son ennemi, mais aussi qu'il regardait avec respect, qui était son père, le frère de Saladin. On raconte que Richard Cœur de Lion l'a même fait chevalier. En tout cas, voilà, c'est un homme qui s'est intéressé et qui avait déjà bâti des relations avec les chrétiens par le passé, même si c'était dans ce contexte complexe de bataille et de guerre entre le monde musulman et le monde chrétien autour des croisades. Il y a dans son entourage quelques chrétiens, et notamment après Damiette, un peu plus tard, quand il partira à la conquête de l'Est, dans des batailles contre le monde byzantin. Al-Malik al-Kamil aura comme grand vizir un chrétien. Donc il semble que aussi ce qui était assez remarquable et assez rare, puisque les chrétiens vivant en terre d'islam, en général, n'avaient pas le droit d'avoir des postes de haut fonctionnaire dans le monde musulman. Lui en a fait au moins l'une ou l'autre exception, notamment à travers la figure de ce vizir. Donc un honnête homme, pourrions-nous dire, même si cette expression ne sied pas beaucoup au Moyen Âge, enfin en tout cas elle n'est pas très, très... Elle viendra plus tard dans la littérature française. Mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à Damiette et qui a permis à François d'Assise de vivre cette rencontre. On est dans ce contexte aussi où, donc de la cinquième croisade lancée par Honorius III, qui insiste et qui présente l'islam comme la religion de Satan. Mohammed est décrit comme la bête de l'Apocalypse dans les écrits d'Honorius III. À cette époque-là, d'ailleurs, souvent la bête de l'Apocalypse est associée aux musulmans, mais là, plus particulièrement, à la figure de Mohammed. Donc, Honorius III envoie plusieurs missives au sultan Al-Din, donc à ce moment-là, qui est le père d'Al-Kamil, pour lui demander de rendre aux chrétiens tous les lieux saints, de libérer la ville de Jérusalem et de libérer la route qui conduit les pèlerins à Jérusalem. Et devant le refus d'Al-Din, eh bien, il décrète cette cinquième croisade où vont se retrouver tous les comme dans les croisades, voilà, les grands princes de l'époque se retrouvent au pied de Damiette, sous la bannière d'ailleurs de Jean de Brienne, qui est ce chevalier franc qui finira à la fin de sa vie franciscain et qui est roi de Jérusalem et dont le corps sera enterré dans la basilique San Francesco d'Assise. Mais ce n'est Si au départ c'est lui qui est le chef des croisés, rapidement c'est le légat du pape Pélage qui est envoyé par le pape pour diriger le monde des croisés qui se rassemble donc autour de Damiette, cette ville du nord de l'Égypte et qui est le premier passage obligé pour pouvoir ensuite accéder au reste du monde musulman que doivent conquérir les croisés. Cette forteresse est dite imprenable. Voilà. François d'Assise, lui, déjà a beaucoup de compagnons et a déjà cherché à rejoindre l'Orient dans un voyage qu'il n'a pas pu entreprendre à cause des intempéries et de la tempête qui s'est déclarée sur la Méditerranée à ce moment-là et qui l'a amené à rebrousser chemin. Mais à l'occasion de cette cinquième croisade, François d'Assise, avec quelques compagnons, réussit à partir et à rejoindre le camp des croisés à Damiette. Dans le même temps, un autre groupe de franciscains partent vers Marrakech pour prêcher la vraie religion aux musulmans du Maroc. Voilà donc deux groupes de petits franciscains au milieu de ce monde qui est en guerre, qui décident de partir pour annoncer l'évangile à ceux à qui on fait la guerre à ce moment-là. Et ils vont le faire de façon très différente les uns les autres, même s'il y a comme point commun d'y aller sans armes et juste avec comme arme la parole d'évangile ou la parole de Dieu. Mais les saints franciscains qui vont partir à Marrakech vont finir, eux, martyrs dans la ville de Marrakech, alors que François d'Assise, lui, pourra repartir de cette rencontre et rentrer en Italie un petit peu plus tard et pour vivre la fin de sa vie avec notamment la rédaction de la règle de son ordre. Donc on est dans le camp des croisés, François et ses compagnons au lendemain d'une défaite terrible des croisés qui a eu lieu le 29 août 1219. Ils ont pris soin des blessés, des malades. On dit que François d'Assise a pleuré sur notamment les soldats espagnols qui se sont fait laminer dont il avait manifesté sa proximité les jours qui précédaient. Il décide du coup et décréter après cette bataille un peu désastreuse pour les croisés, décréter une trêve de quelques semaines. Et François d'Assise y voit l'occasion de quitter le camp des croisés pour aller à la rencontre de ce sultan. Il va vivre cette rencontre. Il est vite appréhendé par les troupes du sultan et il est emmené devant le sultan quand il se déclare venir juste pour parler de Dieu et étant envoyé par Dieu pour rencontrer Al-Malik Al-Kamil. Cette rencontre va se dérouler sur plusieurs jours avec beaucoup de discussions théologiques, avec François prêchant l'évangile, répondant aux questions, annonçant le mystère de la Trinité et parlant beaucoup du mystère de l'incarnation et du salut en Jésus-Christ. Cela suscite, semble-t-il, beaucoup d'intérêt pour le sultan. Des discussions ont lieu. Parmi les théologiens musulmans, il y a un proche du sultan qui est connu pour être un grand mystique de l'époque, qui a comme surnom la fierté de la religion, évidemment la religion musulmane. Il est connu pour être un mystique et un disciple d'Al-Hajj, ce mystique du 9e siècle qui meurt crucifié à Bagdad après avoir traversé les rues de Bagdad en disant « c'est moi la vérité ». Ce mystique Al-Hajj est connu pour avoir développé toute une expérience mystique au sein du monde musulman, qui est une union intime entre l'âme et Dieu, une union amoureuse entre l'âme et Dieu. Il sera largement repris par des courants mystiques dans l'islam, on appelle le soufisme, par la suite, notamment par Rumi, et parmi ses disciples, eh bien, on trouve un proche de ce sultan. Donc, il semble qu'il y ait vraiment eu beaucoup de débats, d'échanges, mais François d'Assise se rend compte que la parole ne semble pas fléchir la foi en l'islam du sultan, ni des théologiens musulmans, d'où cette proposition qu'aurait faite François de ce feu et de ce qu'on appelait d'un jugement par d'Ordalie, donc un jugement par le feu où tous les protagonistes se jettent dans le feu et puis celui qui en ressort indemne, eh bien, c'est Dieu qui a désigné qui était le vainqueur de cette dispute théologique. D'où ce que vous avez vu dans les fresques de Giotto, on voit partir sur la pointe des pieds les théologiens, dont ce mystique nonagénaire, qui n'ont pas du tout envie de se jeter dans le feu. Et Saint Bonaventure prête cette parole au sultan en disant, mais manifestement, mes théologiens n'ont pas très envie de se jeter dans le feu. Moi, je n'ai peut-être pas très envie de les voir mourir, ni toi, François. Donc, renonce à cette idée et cette proposition de François d'Assise, même si on ne sait pas si ce feu a vraiment été proposé par François. Ce sont les chroniques les plus anciennes. Jacques de Vitry n'évoque pas du tout cet aspect-là de la rencontre. Elle semble avoir été plutôt une légende qu'une réalité. Mais en revanche, on prête deux choses au sultan au moment de la séparation avec François d'Assise, et ça semble être attesté par les toutes premières sources. D'abord, le sultan veut couvrir de cadeaux François d'Assise, et qui, évidemment, ayant fait vœu de pauvreté, le refuse, ce qui choque beaucoup l'entourage du sultan, qui veulent, ça ne se faisait pas de refuser un cadeau du sultan qui manifester son estime à travers ce cadeau. C'était comme mépriser cette estime. Mais le sultan semble gagné par les arguments de François d'Assise et touché même par ce témoignage évangélique et ce signe de pauvreté affirmé par François d'Assise. Alors, le sultan a une idée, il lui dit, mais soit, ce n'est pas à toi que je fais tous ces cadeaux, mais tu sauras en faire du bien pour les pauvres dans ton pays et pour ton Église. Ça, c'est Saint Bonaventure qui rapporte cela 40 ans après la rencontre. Alors, est-ce qu'il a reçu ce témoignage du frère illuminé ou du frère François d'Assise directement? Nous ne savons pas. Mais là aussi, François d'Assise refuse et finalement, le sultan cède devant le poverolo d'Assise qui est François. En revanche, il lui aurait adressé, et là, c'est Jacques de Vitry qui rapporte cette parole du sultan au moment de quitter François d'Assise. Il invite François à prier pour que Dieu l'éclaire sur la vraie religion. Ce qui est magnifique comme salutation et qui dit clairement qu'il s'est passé quelque chose entre ce sultan et François, et une rencontre. Alors, si on regarde maintenant les sources qu'on peut trouver de ce dialogue possible dans un contexte si improbable, eh bien, on a plusieurs sources. D'abord, si je regarde dans le Coran, et je pense que le sultan avait ces passages-là à l'esprit dans sa rencontre avec François d'Assise, eh bien, on a notamment dans la sourate 29-46, « Ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus courtoise, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. » Cela permettra à Al-Kamil d'être très ferme dans sa bataille contre ceux qui lui font la guerre et en même temps d'être le plus courtois avec ce héros de Jésus-Christ, de l'évangile de Jésus-Christ, pouvant distinguer entre l'hostilité que lui a manifestée le pape Honorius III et ce pauvre qui veut lui prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Un autre passage du Coran, au chapitre 16, verset 125, « Appelle les hommes dans le chemin de ton Seigneur par la sagesse, une belle exhortation. Discute avec eux de la meilleure manière. » Voilà, dire que le discernement aussi se fait dans l'échange, dans le dialogue, dans la discussion, mais aussi, voilà, cette sagesse, elle est le fruit de ce dialogue et de cette discussion qui peut y avoir, Camille exhorte aussi François d'Assise à lui parler de la meilleure des façons de l'évangile de Jésus, Christ, et de l'entendre, de le comprendre, d'où sa prière finale, « Prie pour que Dieu m'éclaire sur la vraie religion. » Voilà. On pourrait citer d'autres sources coraniques, notamment le chapitre 5, verset 48. « Si Dieu avait voulu faire de vous une seule communauté, il l'aurait fait. Il a voulu que vous soyez plusieurs communautés, chacune avec un livre. » Et on sait que cette expression signifie dans le Coran que ça représente les différentes religions du livre, que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Oui, il l'a voulu ainsi dans sa bienveillance afin que vous vous stimuliez dans la recherche du bien, et le jour du jugement dernier, Dieu vous fera savoir le pourquoi de vos différences. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a peut-être un mystère à accueillir, qui est celui du pluralisme religieux qui semble être admis et même voulu par Dieu pour permettre aux différentes communautés religieuses de se stimuler dans la recherche du bien. Passage du Coran qui malheureusement est peu souvent cité. Si on a des sources dans le Coran pour comprendre ce qui anime Al-Kamil, on peut trouver aussi des sources dans la Bible qui nous sont plus familières, qui animent le cœur de François d'Assise. Ben, d'abord, on a cette figure du sage Job dans la Bible, qui est un non-juif, et qui on a cette présentation de ce roi perse Cyrus par le prophète Isaïe, qui est présenté comme le berger du peuple d'Israël, comme le Messie du peuple d'Israël, et qui est une préfigure aussi du Christ, et qui n'appartient pas pourtant au peuple élu. Et puis on a donc ces sources de l'Ancien Testament qui nous laissent entendre que Dieu peut agir et parler à travers des hommes qui ne sont pas dans l'alliance et l'histoire du salut telle qu'elle est conduite par le Seigneur lui-même. Voilà, le Seigneur conduit l'histoire, choisit un peuple avec qui il fait alliance, qui est le peuple hébreu, puis ensuite le peuple de la Nouvelle Alliance, qui est le peuple chrétien, et c'est à travers ces deux peuples qu'il manifeste son alliance et son salut à tous les hommes, mais cela ne le limite pas dans son action à travers ni le peuple de la Première Alliance, ni le peuple de la Deuxième Alliance. Mais plus familier encore, ce sont tous les passages du Nouveau Testament, et notamment si on regarde la relation entre Jésus et les Samaritains. D'abord, il est étonnant que Jésus prenne raconte l'histoire du bon Samaritain, donc dans au chapitre 10 de l'Évangile de Luc, pour illustrer le double commandement de l'amour et de l'amour du prochain. Et donc, du coup, l'exemple parfait de celui qui obéit à Dieu est un Samaritain. Évidemment, quand Jésus dit ça dans le temple de Jérusalem, cela ne peut que profondément choquer et bouleverser les Juifs qui l'entendent et qui ne voulaient rien avoir avec les Samaritains. On voit Jésus qui part à la rencontre des Samaritains, et notamment on a cette célèbre rencontre avec la Samaritaine au bord du puits qui va conduire à la conversion de tout un village de Samaritains qui accueille le salut en Jésus-Christ. Mais on voit aussi Jésus se mettre en colère contre ses disciples dans Luc au chapitre 9, quand ceux-ci ont une pensée d'hostilité vis-à-vis la foudre sur ce village, et on nous dit que Jésus se met en colère à ce moment-là contre, c'est une des deux saintes colères de Jésus contre ses disciples dans tout l'évangile, voilà qu'il se met en colère contre ses disciples simplement parce qu'il pense du mal à ceux qui n'ont pas voulu l'accueillir et le recevoir comme leur sauveur. Voilà, et donc voilà, on sait que François d'Assise est pétri d'évangiles. Mais nous savons aussi que ce qui le motive, c'est un autre passage de l'Évangile, c'est sur le sermon sur la montagne, quand Jésus dit, c'est aimer vos ennemis, c'est en aimant ceux qui ne vous aiment pas, que vous témoignerez que vous êtes bien les fils du Très-Haut. Voilà, le chapitre 5, verset 45-48, je crois. Voilà, pour retrouver les mots exacts. Hein. Mais du coup, c'est bien cela qui anime François d'Assise. L'ennemi, à ce moment-là, dans le monde chrétien, ce sont les musulmans, c'est l'islam. Encore une fois, dans les textes officiels, la bête de l'Apocalypse, c'est Mahomet, ou le monde musulman. Et que ce soit les franciscains qui partent à Marrakech ou que ce soit les François d'Assise, ils ont ça à l'esprit. Mais ils veulent manifester leur amour pour ces musulmans au nom de Jésus-Christ, en leur prêchant le salut. L'expédition de Marrakech va mal se finir parce que le petit groupe de musulmans se fait arrêter plusieurs fois, emprisonner, puis relâcher. Ils sont non-violents, donc, sauf qu'ils ne manquent pas d'insulter ouvertement et publiquement Mahomet, enfin Mohamed et le prophète de l'islam en le targuant de suppôt de Satan. Et à ce moment-là, le gouverneur de Marrakech leur demande plusieurs fois de leur dit vous pouvez prêcher l'évangile, mais je vous demande de ne pas insulter le prophète Mohamed. Et eux ont tellement soif de martyrs qu'ils envoient, ils y voient là l'occasion d'accéder aux martyrs, et donc ils en rajoutent une couche sur Mohamed, suppôt de Satan. Et donc du coup, ce roi musulman, ou ce prince musulman de Marrakech, coupe la tête de ces cinq moines, de ces cinq frères franciscains, qui remonteront, et il permettra aux chrétiens de récupérer leur corps et de les ramener dans leur pays pour qu'ils soient enterrés dans leur pays. Et c'est au cours de cette remontée que, passant par Coimbra, eh bien, un jeune ecclésiastique de Coimbra, touché par le martyre de ses frères franciscains, va épouser lui aussi Dame Pauvreté et deviendra Saint Antoine de Padoue. Voilà, donc on peut dire que d'une certaine façon, cette expédition n'a pas été totalement vaine. Voilà, tout autre esprit de François d'Assise à Damiette, ou Diamètre, je me trompe toujours dans la nomination de cette ville d'Amiette. Voilà, de François d'Assise ne parlera jamais de Mahomet et n'évoquera jamais Mohammed, mais parlera de Jésus, de la Trinité, de son amour de la Trinité. Et on peut bien imaginer que le sultan est profondément touché parce qu'il voit là un homme qui parle d'expérience et qui ne parle plus que et qui parle de sa foi. Ce sera intéressant dans son retour aussi en Italie. Jamais, à aucun moment, François d'Assise ne dira la moindre chose négative sur Mohammed. Voilà. Ce qui étonne pour son temps. Et on peut en être quasi sûr parce que aucune source ne rapporte le moindre propos négatif de François d'Assise sur Mohammed. Il en a sans doute simplement jamais parlé, alors que à l'époque, et cela même qui rapporte les propos qui rapporte l'expérience et la rencontre de François d'Assise avec le sultan, cela même dans d'autres écrits, eux n'hésitent pas à critiquer de façon très forte et très directe le prophète de l'islam. Voilà. Donc en tout cas, une attitude qui dénote dans sa façon. Voilà. Le point commun en tout cas entre François d'Assise et ses compagnons de Marrakech, c'est que François d'Assise a certainement soif aussi du martyr. Et c'est pour ça que cette rencontre, à ses yeux, aura plutôt le goût de l'échec. Il n'a obtenu ni le martyr qu'il désirait pour la plus grande gloire de son Seigneur, Jésus-Christ, ni la conversion de ce leader du monde musulman qui était Al-Malik El-Kamil. Mais pourtant, cette rencontre rayonne encore jusqu'à aujourd'hui. Et si ce sont les franciscains qui tiennent les lieux saints en Terre Sainte, c'est une volonté des sultans qui ont succédé à Al-Malik El-Kamil, et sans doute en souvenir de cette rencontre. Pour autant, en revenant, on peut dire que aussi cette rencontre aura eu un effet fort sur François d'Assise, notamment Gwenallé Jossé, qui a écrit un très beau livre sur cette rencontre entre François d'Assise et Sultan, dit notamment on a les plus beaux écrits sur l'Eucharistie et puis tout ce développement du mystère de l'incarnation par François d'Assise, avec notamment la crèche les crèches vivantes qu'il va mettre en place. Voilà, tout cela se fait après, à son retour. Est-ce que c'est lié à cette rencontre ou pas? Mais cette rencontre, en tout cas, ne l'a pas du tout éloigné de sa foi chrétienne. Au contraire, l'a conforté dans cette foi, dans un sens d'approfondissement plus personnel sur le mystère notamment de l'incarnation et sur la vie sacramentelle. Et on peut l'attester parce qu'il va y insister beaucoup auprès de ses frères, et notamment ça va être fortement marqué dans la règle qu'il va écrire. Dans cette règle aussi, le chapitre 16 est remarquable et je vais vous le lire parce qu'il est, certainement ce qu'il y a, ce qui évoque le mieux comme fruit de cette rencontre entre François d'Assise et le sultan. Voici, voilà, ce chapitre 16 donc, de la règle de François d'Assise. Le Seigneur dit, voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents simples, comme des colombes. Dès lors, si des frères veulent aller chez les Sarrasins, donc les musulmans, et autres infidèles, donc pas simplement les musulmans, mais d'autres, hein, qu'ils y aillent avec la permission de leurs ministres et serviteurs, et que leurs ministres leur donnent la permission et ne s'y opposent pas, s'ils voient qu'ils sont aptes à être envoyés. Donc, il y a quand même une vérification à faire en amont. Est-ce que la personne est apte à vivre cette mission de rencontre avec l'autre ? Car il sera tenu de rendre compte au Seigneur si en cela ou en autre chose, il procédait sans discernement. Les frères qui s'en vont peuvent vivre spirituellement parmi eux de deux manières. Et c'est là, voilà quelque chose de tout à fait nouveau dans le monde chrétien. Une manière est de ne faire ni dispute, ni querelle, mais d'être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu et de confesser qu'ils sont chrétiens. Donc, et l'autre manière est lorsqu'ils voient que cela plaît au Seigneur, d'annoncer la parole de Dieu pour que les saints fidèles croient en Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur de toutes choses, au Fils Rédempteur et Sauveur, et pour qu'ils soient baptisés et deviennent chrétiens. Et que tous les frères, où qu'ils soient, se rappellent qu'ils se sont donnés et qu'ils ont abandonné leur corps au Seigneur Jésus-Christ, et pour son amour, ils doivent s'exposer aux ennemis, tant visibles qu'invisibles, car, dit le Seigneur, qui perdra son âme à cause de moi, la sauvera pour la vie éternelle. Heureux ceux qui souffrent la persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voilà, c'est ce chapitre 16 de la règle de François d'Assise. Ben, remarquable parce que, notamment dans l'évocation qu'on peut vivre la mission de deux façons, par un témoignage chrétien, qui est un témoignage de vie, qui ne cache pas le fait que l'on est chrétien, un peu comme vivra un Charles de Foucault au milieu des Touaregs dans le sud du désert algérien, un Taman Rasset, et vivre la vie de Nazareth, voilà, pour reprendre l'expression de Charles de Foucault. Et éventuellement prêcher avec la parole, ce qu'on fait aussi, ce qu'a fait François d'Assise auprès du sultan, mais mais François d'Assise n'y a pas vu le fruit qu'il attendait ou qu'il espérait ou qu'il comptait. Est-ce que pour autant, ça veut dire que François d'Assise s'est dit qu'il faudrait certainement plus de temps, plus de familiarité avec les personnes qu'il était parti rencontrer pour pouvoir pour que un fruit de conversion puisse s'établir. C'est ce que laisse entendre d'ailleurs Charles de Foucault, qui en autre temps vivra en terre d'islam, lui dit qu'il faut passer beaucoup, beaucoup de temps avec les musulmans dans un témoignage de service gratuit, d'amitié fraternelle, et pour témoigner de cette religion de l'amour qui dit combien Dieu est aimable et combien on peut aimer Dieu de façon simple et concrète en aimant son prochain. Voilà, c'est le projet de Charles de Foucault. Ben voilà, peut-être que François d'Assise pense cela, en tout cas certainement que ça guidera un certain nombre de missions franciscaines par la suite, et c'est certainement encore une fois pour cela que plus tard, les sultans musulmans confieront la garde des lieux saints aux franciscains. Cette capacité de vivre au milieu des musulmans dans un juste témoignage d'amour, éventuellement prêchant Jésus-Christ. Voilà, c'est le troisième point de la règle, ne pas avoir honte, ne pas rougir de sa foi en Jésus et d'être prêt à donner sa vie pour cette foi. Mais c'est autre chose que de recevoir le martyr que de le provoquer. Voilà, en tout cas, ces lignes, est-ce qu'il y a d'autres choses qui auraient été produites dans le cœur de François? Eh bien, on peut penser à deux choses qui sont… c'est notamment François d'Assise qui envoie deux lettres aux custodes, c'est-à-dire aux responsables des communautés locales et régionales franciscaines entre 1220 et 1224, enseigner et prêcher à tous les peuples ce devoir de le louer pour que, à toute heure et au son des cloches, louange et action de grâce soient rendues toujours par tout le peuple et sur toute la terre au Dieu Tout-Puissant. Certainement que François d'Assise, puisqu'il l'a évoqué par ailleurs, a été profondément marqué par l'appel à la prière qu'il a entendu, pas simplement d'ailleurs à Damiette, mais qu'il a entendu aussi en Syrie, où cette rencontre avec le sultan Al-Malik, il a passé plusieurs mois en Syrie au contact des populations musulmanes, et marqué par cet appel à la prière. Les cloches existent déjà en monde chrétien. L'Angélus commence simplement à se répandre, mais pas de façon systématique. Et essentiellement, il est connu en France, mais peu connu, peu pratiqué en Italie, peu pratiqué dans le reste de l'Europe. On sait que clairement, les franciscains vont largement soutenir, et Bonaventure en tête, la diffusion de l'Angélus et l'appel à la prière. C'est très beau dans l'Angélus, c'est qu'au cœur de l'Angélus, c'est l'annonce du mystère de l'incarnation qui est évoquée, et la Trinité, puisque la prière finale de l'Angélus est une prière à la Trinité, puisqu'on demande au Père de répandre dans les âmes des hommes l'Esprit Saint, et qu'il le fasse par la passion et la résurrection de Jésus-Christ, qui nous conduisent à la résurrection de Jésus-Christ, nous faisant passer par la passion de Jésus-Christ. Nous faire passer par la passion de Jésus-Christ, c'est le dernier point qu'on peut retenir aussi de cette rencontre, c'est que certainement François d'Assise met de son... a soif de donner sa vie pour le Seigneur Jésus, et donc a soif du martyr, mais il exprimera de façon très très belle un petit peu plus tard, après cette rencontre de retour en Italie, et cela lui va avoir comme fruit les stigmates qu'il va porter, c'est il fait cette prière au Seigneur de lui donner la grâce de vivre deux choses en même temps, celle d'éprouver les souffrances du Seigneur Jésus en croix, et dans le même temps d'éprouver l'amour que Jésus a dans son cœur pour ceux qui le persécutent. Voilà. D'éprouver en fait ce que la source de la fraternité universelle qui jaillit de la croix de Jésus. Mais d'éprouver ces deux choses, pas simplement la souffrance pour la souffrance, mais en éprouvant cette souffrance aussi, ressentir ce qui habitait l'âme de Jésus, cet amour pour tous, pour tous les hommes. Voilà. si ce que le temps tourne, s'il est des quelques échos de ce rayonnement de cette rencontre, mais j'en vois notamment pour faire un notamment dans le Concile de Vatican II de façon très forte, et puis dans deux textes du pape Saint Paul VI et du pape François. Dans le Concile de Vatican II, notamment à travers deux grands textes du Concile, qui sont parmi les derniers, pas, sans doute pas les plus importants, mais parce que dans le sens, ils ne sont pas des constitutions comme Lumen Gentium qui raconte le mystère de l'Église et Gaudium et Spes qui raconte le mystère des relations entre l'Église et le monde. Mais dans Nostra Aetate, qui raconte les relations entre l'Église et les autres religions, Nostra Aetate 3, et si au cours des siècles de nombreuses dissensions entre les chrétiens et les musulmans, le Concile les exhorte à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger, à promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. L'idée de s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, on peut dire que là, il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette rencontre entre le sultan et François. En oubliant toutes les inimitiés qui pouvaient nous et les dissensions que portaient les uns et les autres, mais aussi toujours dans Nostra Aetate 4, donc la déclaration du Concile de Vatican II qui traite des rapports entre l'Église et les autres religions. D'ailleurs, comme l'Église l'a toujours tenu et comme elle le tient, le Christ, en vertu de son immense amour, s'est soumis volontairement à la passion et à la mort à cause des péchés de tous les hommes et pour que tous les hommes obtiennent le salut. Le devoir de l'Église dans sa prédication est donc d'annoncer la croix du Christ comme signe de l'amour universel de Dieu et comme source de toute grâce. Et la suite de ce texte parle de cette fraternité universelle voulu par Dieu, Nostra Aetate 5. Voilà, et là on peut dire que dans ce texte de Nostra Aetate qui associe et la croix et ce désir de Dieu d'une réelle fraternité entre les hommes, une vraie fraternité, eh bien on retrouve ce qui habitait le cœur de François d'Assise, et notamment dans cette prière qu'il exprime au Seigneur dans son désir de communier intensément aux souffrances de la croix et au sentiment d'amour que le Christ a pour tous ses frères les hommes. Un autre texte important du Concile de Vatican II, qui est le décret sur la liberté religieuse. Et là, je trouve que voilà, ce décret authentifie le chapitre 16 de la règle de François d'Assise, qui a été tue un moment d'ailleurs par le pape Honorius III, qui avait enlevé les deux manières de prêcher l'évangile voulues par François d'Assise. Et donc, c'est quelques siècles plus tard, ou quelques dizaines d'années plus tard, que les franciscains pourront revenir au texte original de François. Mais donc dans la liberté religieuse, dans le décret sur la liberté religieuse, aux articles 12 et 14, l'Église reconnaît le principe de liberté religieuse comme conforme à la dignité humaine et à la révélation divine. Pas simplement à la dignité humaine, mais conforme aussi à la révélation divine. Ça, je crois que c'est au cœur même de l'expérience chrétienne qui met en avant la conscience. Elle encourage une telle liberté, bien qu'il y ait eu parfois dans la vie du peuple des dieux, des manières d'agir non conformes, bien plus contraires, bien plus contraire à l'esprit évangélique, l'Église a cependant toujours enseigné que personne ne peut être amené par la contrainte à la foi. Les chrétiens doivent aller avec sagesse au-devant de ceux qui sont au dehors et s'efforcer dans l'Esprit Saint avec une charité sans feinte, dans la parole de vérité, de répandre la lumière de vie en toute assurance et courage apostolique jusqu'à l'effusion de leur sang. Voilà, tout est dit. À la fois la liberté de l'autre d'accueillir, de recevoir ou de ne pas recevoir la parole de salut que l'on annonce, le fait qu'ils reçoivent ou ne reçoivent pas est indépendant du fait qu'on le reconnaisse comme frère et qu'on l'aime comme tel. On peut espérer sa conversion, mais on ne peut pas la décider, sinon on ne serait plus dans l'amour du prochain. On verra comment les papes éclairent cela par la suite. Et en même temps, ne pas rougir de croire ce en quoi on croit. Et si on doit l'annoncer au prix de sa vie, eh bien soit qu'on le fasse au prix de sa vie. Mais on ne recherche pas pour autant ce martyr. Le disciple a envers le Christ, son maître, le grave devoir de connaître toujours plus pleinement la vérité qu'il a reçue de lui, de l'annoncer fidèlement en s'interdisant tout moyen contraire à l'esprit de l'Évangile. Donc deux choses là. D'une part, c'est que souvent le fruit de la rencontre avec le croyant d'une autre religion nous permet non pas de nous éloigner de notre propre foi, mais nous donne des raisons d'approfondir et de croire davantage ce que laisse entendre Gwenallé Jossé dans ce franciscain qui est un familier de son fondateur François d'Assise, comme fruit de cette rencontre entre Malik et François d'Assise, notamment sur le mystère de l'incarnation et sur le mystère de l'Eucharistie. L'autre point, c'est la première fois que dans un texte officiel de l'Église et qui s'impose à tous les catholiques, on peut comprendre du coup que certains s'y soient opposés farouchement et n'accueillent pas encore ce texte, c'est la première fois qu'il est dit par un texte du magistère de l'Église que l'on ne peut pas annoncer l'Évangile avec des moyens qui soient contraires, non conformes à l'esprit de l'Évangile. Et ces moyens contraires à l'esprit de l'Évangile, nous savons, c'est clairement, à un moment, voilà, Jésus refuse d'utiliser les armes ou la violence, que ce soit pour se défendre, mais pour défendre la vérité qu'il annonce, ou que ce soit pour imposer encore plus, pour imposer sa foi aux autres. Donc, ça, c'est le propre de la foi chrétienne. Et donc là, il est clairement dit que les missionnaires doivent avoir ça dans le cœur et à l'esprit. Donc, on se gardera bien aussi d'insulter et de provoquer ceux à qui l'on s'adresse. Même si on croit leur dire une vérité en disant que Mohammed est un suppôt de Satan, si on sait que dire cela, c'est les insulter et les empêcher d'entendre la parole de l'Évangile, eh bien, on ne le dit pas, voilà, point. Et indépendamment du fait, je ne me prononce pas sur le fait que, si cette pensée est juste ou pas, même si je pense qu'elle est fausse. Mais voilà, Saint Paul VI, en 1964, dans son encyclique Ecclesiam Suam, qu'il publie juste avant Nostra Aetate, a toute la fin de cette encyclique est sur le dialogue dans l'Église, et ce dialogue comme mode d'être pour le chrétien, et qu'il trouve sa source en Dieu lui-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Seul un amour fervent et désintéressé devra susciter le nôtre dans la rencontre avec les autres. Le nôtre doit être aussi sans limite et sans calcul, c'est-à-dire notre amour pour l'autre. Donc on attend, quand on part à la rencontre des musulmans, même si on espère leur conversion, ce qui nous anime, c'est cet amour réel du prochain, eh bien, il y a le respect de cette liberté. Et donc, il doit être. Et le dialogue n'est pas un calcul ou une stratégie pour annoncer l'évangile, et il est une manière d'être chrétien au milieu des autres. Voilà. Le pape François, Fratelli Tutti, puis je m'arrêterai là, dans ce cadre, à la fin de son encyclique sur la fraternité universelle, Fratelli Tutti, il reprend l'expression de saint François d'Assise, tous frères, et au début il dit qu'il a puisé l'inspiration de cette encyclique dans l'esprit de François d'Assise, et il conclut son encyclique avec ces mots: dans ce cadre de réflexion sur la fraternité universelle, je me suis particulièrement senti stimulé par saint François d'Assise, mais également par d'autres frères qui ne sont pas catholiques, Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi et beaucoup d'autres encore. On aurait aimé qu'il soit musulman, il ne l'a pas fait là. Voilà. Mais je voudrais terminer en rappelant une autre personne à la fois profonde qui, grâce à son expérience intense de Dieu, a fait un cheminement de transformation jusqu'à se sentir le frère de tous les hommes et femmes. Il s'agit du bienheureux Charles de Foucault. Il a orienté le désir du don total de sa personne à Dieu vers l'identification avec les derniers, les abandonnés au fond du désert africain. Il exprimait dans ce contexte son aspiration de sentir tout être humain comme un frère ou une sœur. Il demandait à un ami: « Priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes. » Il voulait en définitive être le frère universel. Mais c'est seulement en s'identifiant avec les derniers qu'il est parvenu à devenir le frère de tous. Que Dieu inspire ce rêve à chacun d'entre nous. Amen. Voilà ma conclusion. Voilà, donc s'il y a quelques questions, je veux bien y répondre. Je n'ai pas évoqué ce qu'on vit dans les Yvelines. Si certains, ça peut venir, mais c'est pour laisser l'espace à des questions. Voilà. Donc je redonne la parole à Stanislas pour remonter éventuellement telle ou telle question.
Merci Père. Voilà, si certains souhaitent poser des questions, qu'ils se sentent libres. Voilà.
Est-ce que alors du coup j'évoque un peu ce qu'on vit dans les Yvelines alors depuis dans cet esprit?
Volontiers, oui, oui.
Et nous, dans les Yvelines, dans le diocèse de Versailles, on estime à peu près, c'est une estimation que je fais, je n'ai pas de statistiques suffisamment précises, et le monde laïque dans lequel nous sommes n'y aide pas, puisqu'il est quasiment interdit de faire un sondage pour savoir qui est musulman, qui est chrétien, voilà. Enfin, en tout cas, c'est compliqué. Donc, on est obligé de croiser différents chiffres pour estimer à peu près entre 130 000 et 165 000 musulmans dans un département qui compte 1 400 000 personnes. Donc, autour de 10% de la population en Yvelines est musulmane. Et dans certaines villes, elle est majoritaire. Au Mureaux, on estime que c'est 60%. Et dans les quartiers et les cités populaires, dans les différentes villes des Yvelines, les musulmans représentent 70% de la population de ces quartiers et de ces cités populaires. Donc, les musulmans sont présents et sont parfois majoritaires. Moi, ça fait 24 ans que je suis prêtre. mon ministère est marqué par le fait que j'ai aussi entendu l'appel du Seigneur à servir davantage au service des habitants des cités populaires, que ce soit en Yvelines ou pendant quelques années en Seine-Saint-Denis. Donc, dans un environnement où souvent la majorité des personnes que je croisais dans la rue étaient musulmanes. Ce n'était pas forcément les personnes avec qui j'étais le plus en contact, parce que comme prêtre, on est envoyé à tous, mais on est d'abord auprès de la communauté chrétienne que l'on anime, que l'on accompagne, que l'on soutient, notamment par la vie sacramentelle. Donc, je n'aurais pas été juste dans mon ministère si je n'avais pas trouvé les moyens aussi de rencontrer des musulmans et de pouvoir aussi témoigner de l'évangile auprès d'eux. Et même toutes ces dernières années, enfin, je trouve avec le temps, leur parler de plus en plus et de façon de plus en plus simple de Jésus, de témoigner aussi de Jésus. Et de sentir d'ailleurs qu'il y a un réel accueil et une soif, notamment chez les jeunes musulmans, d'entendre ce que les chrétiens disent de Jésus, mais pas seulement, disent aussi de Dieu. Il n'est pas rare que des jeunes adultes musulmans, c'était encore le cas hier après-midi, prennent rendez-vous, hein, un jeune Yanis qui a 27-28 ans et qui avait beaucoup de questions sur la Trinité, sur le salut en Jésus-Christ, sur savoir si Jésus est, pourquoi on peut dire que Jésus est fils de Dieu. Voilà. Et donc on sent en tout cas qu'il y a une soif dans ce monde musulman de connaître Dieu, et on aimerait parfois trouver cette soif aussi forte chez les jeunes chrétiens. Est-ce qu'elle l'est d'ailleurs pour un certain nombre d'entre eux, elle existe, mais chez les jeunes musulmans cités, c'est un phénomène de masse. Voilà, chez les chrétiens, c'est plus un phénomène réel, mais qui touche quelques personnes. Et dans nos rencontres interreligieuses, quand on voit très souvent présents des jeunes musulmans et les jeunes chrétiens un peu si désintéressés, après réflexion avec eux, souvent parce qu'ils se sentent désarmés, ils se sentent un peu en difficulté pour citer l'évangile quand les jeunes musulmans qu'ils rencontrent et qui s'intéressent dans ces rencontres, qui participent à ces rencontres, citent facilement le Coran et parfois citent aussi facilement des passages bibliques comme le font certains évangéliques. Et souvent, nos jeunes catholiques connaissent bien moins l'évangile, en fait, ou sont moins à l'aise pour citer ou pour parler, ou pour rendre compte. Et là, je pense que c'est tout un défi. D'où un petit livre, d'ailleurs, que le diocèse a produit pour encourager les jeunes chrétiens à ne pas démissionner face à cette mission, qui est « Je ne rougis pas de l'évangile ». Ce petit livre a eu un bon écho auprès des jeunes adultes de Trappes, de Mantes, de Sartrouville ou des Mureaux. Les jeunes d'ailleurs de Trappes et des Mureaux ont mis en les différents chapitres de ce livre en petits scénarios et vidéos pour encourager les plus jeunes aussi dans leur foi. Donc là, il y a eu quelque chose, une sorte de petite dynamique inverse. Parce que dans la foi, dans l'Église catholique, souvent, il reste que les mystères de la foi chrétienne que l'on reçoit, on laisse davantage le prêtre en parler. Et souvent, quand on est laïque, on en parle avec tremblement. Et c'est vrai qu'aussi, dans nos rencontres interreligieuses, pendant des années, moi j'entendais, et c'était la doctrine un peu officielle, hein, même en 2008 de la Conférence des évêques de France, de dire les débats théologiques ou les rencontres sur les mystères de Dieu ne peuvent se faire qu'avec des spécialistes. Sauf que les jeunes musulmans, eux, ils y vont, quoi. Et peut-être qu'ils se trompent. Parfois, ils disent des choses qui sont grossières, inexactes. Parfois, ils croient savoir des choses sur l'Évangile qui sont fausses, donc on les corrige. Mais encore, faut-il bien connaître l'Évangile pour pouvoir les corriger. Et donc, du coup, je pense que là, on a quand même besoin, nous, et on a essayé de développer ça ces dernières années, d'encourager les jeunes chrétiens à ne pas rougir de leur foi et apprendre à rendre compte du mystère de la Trinité, du mystère de l'Eucharistie, sachant qu'en faisant cela, même s'ils ne sont pas totalement accueillis et compris, c'est en faisant cela qu'ils approfondissent eux-mêmes leur propre connaissance de la foi, un peu comme saint François d'Assise. Voilà, c'est une piste de Guénalet, je sais, en tout cas, va parler avec davantage de profondeur de l'Eucharistie et du mystère de l'incarnation après sa rencontre avec le sultan. Voilà, ça c'est une chose. Une autre chose, un autre point fort, c'est que du dialogue qui s'est développé depuis 20-30 ans dans les Yvelines, là où il y a un dialogue un peu régulier, ce dialogue s'est fait beaucoup dans des actions communes. C'est aussi beaucoup développé autour d'actions communes pour le bien des plus démunis. Ça a été notamment l'exemple le plus évident, c'est les collectes alimentaires qui ont démarré il y a 20 ans à Mantes-la-Jolie, il y a 12 ans au Mureau, et qui se font aussi à Sartrouville, à Saint-Germain, dans 7 villes différentes du diocèse, et qui sont faites par des chrétiens et des musulmans en même temps, et qui souvent sont reversées à des associations non confessionnelles, comme les Restos du Cœur, au service des plus démunis. Les Restos du Cœur au Mureau disaient que la plus grosse collecte qu'ils faisaient de l'année, c'était celle que leur apportaient les chrétiens et les musulmans qui la faisaient ensemble sur les magasins de la ville des Mureaux le week-end où ils la faisaient. Voilà, donc il y a l'idée que, voilà, ensemble, on apprend aussi à se connaître en faisant ensemble des choses au service des plus démunis. Et cela, clairement, Al-Kamil, il a l'esprit quand il dit à François d'Assise, d'accord, vous ne voulez pas de mes cadeaux, mais repartez avec un certain nombre de richesses que vous pourrez distribuer aux plus pauvres de chez vous. Donc on sent qu'il y a ce souci du plus pauvre, quel qu'il soit. Voilà en tout cas un bienfait. Le troisième point, c'est important, qui s'est vécu ces dernières années dans les Yvelines, c'est les Yvelines sont connues, malheureusement, pour être un des berceaux du fondamentalisme et salafisme dans le monde musulman, qu'on a vu grandir aussi toutes ces dernières années, notamment dans les cités populaires. D'abord dans les années 90, avec un courant qui venait des frères musulmans d'Égypte et qui était porté par notamment Tariq Ramadan, et puis dans les années 2000 avec l'arrivée du salafisme qui vient lui plutôt d'Arabie Saoudite alors que les frères musulmans viennent d'Égypte, et qui est très sectaire, alors même si la plupart des salafistes dans les Yvelines sont des salafistes piétistes, c'est-à-dire qu'ils ne prêchent pas la violence ni l'agressivité, mais ils se coupent clairement et ils évitent d'avoir des relations avec leurs amis chrétiens et avec leurs voisins chrétiens, qui ne peuvent pas devenir leurs amis, puisqu'ils ne veulent pas avoir de relations avec eux. Mais on sait que les salafistes djihadistes violents ont parfois été pendant un temps salafistes piétistes. Donc il existe des ponts entre, même si la plupart des salafistes piétistes condamnent très clairement tous les attentats qui sont faits au nom de l'islam. Voilà. Mais donc tous ces courants fondamentalistes, on les voit présents et qui traversent les cités. Et quand je dis que c'était une des sources, c'est-à-dire que, bah, par exemple, un peu plus de 90 jeunes de Trappes sont partis faire le djihad ces dernières années en Syrie et en Irak, un certain nombre étant de jeunes d'origine française ou portugaise de longue génération et qui s'étaient convertis à l'islam, et donc un islam très qui les a conduits à partir en guerre à l'autre bout du monde et contre le reste du monde d'ailleurs. Voilà, donc mais dans ces villes-là, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il y a une culture du dialogue et de la rencontre entre chrétiens et musulmans. Et cette culture et ce dialogue se font un peu à tout niveau. J'ai évoqué des actions, mais aussi des échanges, des conférences communes, mais aussi, du coup, sur le plan quotidien, dans des projets sur les muraux, c'est même... Voilà, les communautés chrétiennes et musulmanes sont associées à un grand projet qui s'appelle le PTCE, qui est une sorte de projet entrepreneurial tout azimut sur la ville des Mureaux, où on invite les Muriotins à monter des entreprises, trouver des choses pour sortir du chômage, pour développer aussi de veiller à ce que la ville des Mureaux soit exemplaire sur le plan écologique et puis rayonner autre chose que l'indélinquance et le salafisme musulman. Eh bien, sur les villes des Mantes-la-Jolie, sur les villes de Sartrouville, sur la ville de Mureaux, le salafisme n'a pas été simplement contenu, il est en net recul sur les 20 dernières années, alors qu'il a pu se développer dans d'autres endroits dans les Yvelines, là où il n'y avait quasiment pas de dialogue, ou qu'un dialogue de courtoisie entre responsables de communautés. Mais qui ne suffisait pas pour... voilà, donc on voit que le dialogue, quand il existe, a produit un fruit assez simple et clair, qui est le recul des idéologies musulmanes séparatistes. D'où d'ailleurs, du coup, le fait qu'on... trouve pas très rassurant cette loi contre le séparatisme, parce qu'elle pointe du doigt les communautés religieuses. Or, c'est certainement par les communautés religieuses qu'on peut lutter contre le séparatisme. Et je suis pas sûr qu'on les aide en leur disant qu'on se méfie d'eux. Voilà. En revanche, on devrait, voilà, en revanche, voilà, plutôt encourager ce dialogue interreligieux quand il existe. Voilà. Et puis. Voilà, quelques petits éléments, quelques réflexions. Voilà, peut-être qu'il y a des questions, du coup, qui sont... Je sais pas. Ou des précisions à faire. Pardon hein, si le propos était parfois un peu haché. C'est vrai que parler derrière un écran n'est pas forcément évident. Hein.
Est-ce que certains d'entre nous auraient des questions ou des précisions à demander? Non, bon. Je vous remercie à nouveau sincèrement de la part voilà, de nous tous pour votre intervention qui, je crois, nous a éclairé et puis nous a donné des précisions sur cette relation entre François et le Sultan, également sur ce que vous venez de nous dire. De ce qui se passe dans les Yvelines, L'actualité est toujours un sujet intéressant pour nous tous. Et je vais passer la parole à Alain de Bloch, qui va nous introduire la prochaine conférence qui sera d'ordre plus culturel et également l'aboutissement de ce cycle sur un voyage culturel donc en Ombrie. Alain, si tu veux prendre la parole.
Bonsoir à tous. Donc Alain de Bloch, outre le fait que je sois paroissien, je suis aussi le directeur de Terralto, qui est l'agence de voyage qui propose ce voyage en Ombrie. Alors, pour la prochaine conférence, j'attends les dates de notre guide pour ce voyage, qui a travaillé sur la préparation de ce voyage et cette thématique, qui est une conférencière spécialiste de cette période et qui est en même temps qui vit en Ombrie, hein, qui vit à côté d'Assise et qui en même temps est une grande connaisseuse de Saint-François. Donc elle fait le lien et elle prépare le lien à la fois entre sa passion qui est l'art et à la fois entre sa passion qui est l'art et François. C'est un peu autour de cela, de son idée à elle, qu'on a bâti ce voyage. Alors, ce voyage, il est prévu, ou il était prévu, je vais dire tout de suite, du 16 au 21 mai. Bon, évidemment, on sait depuis le début que cela est soumis à la question de la possibilité de partir. Alors, aujourd'hui, c'est encore possible, mais ça se tend aussi un peu en Italie. Donc, on a pris raisonnablement la décision de reporter à des nouvelles dates. Ça va être annoncé sur le site. L'ensemble des éléments seront mis très prochainement sur le site. Et les nouvelles dates seront du 24 au 29 octobre de cette année. Donc, en espérant que d'ici là, quand même, on ait le temps d'avancer, de se vacciner et de se remettre à vivre normalement. Alors, ce voyage qui sera aussi déjà le thème de la prochaine conférence, alors la date sera fixée bientôt, mais j'attends la réponse, je ne sais pas si vous l'avez dit, j'attends la réponse de notre conférencière sur la date exacte. On lui a posé la question depuis hier deux jours, mais on n'a pas la réponse, donc ça va arriver très bientôt. Le voyage propose quoi? Je dirais le père nous a montrer le rayonnement de la vie spirituelle de François qui infuse encore aujourd'hui notre vie, d'une certaine façon, notre vie relationnelle avec les musulmans et en tout cas dans notre société. Ce qu'on propose là, c'est de regarder au travers de ce voyage la conversation entre l'art et la foi au travers finalement de toute l'influence de François sur l'art et sur la Renaissance. Comment l'art s'est nourri de la foi et notamment de Saint François, et comment aussi d'une certaine façon aujourd'hui l'art peut nourrir notre foi. Le père nous a montré deux tableaux de Giotto qui parlent, hein, voilà. Donc l'objectif de ce voyage, c'est de faire le lien entre la Renaissance et Saint François, même si a priori, il y a quand même un petit écart parce que 250 ans hein, entre la mort de Saint François et puis le développement de la Renaissance, il se passe un certain temps. Saint François, ben, on est encore au Moyen Âge, dans une forme de théocratie, on est dans l'art roman. Et Saint François ben, va impulser, comme le disait le père, une radicalité, un renouveau spirituel, une réforme de l'Église, beaucoup de changements. Cette réalité, c'est aussi celle de la pauvreté dans une église du pouvoir. Hein. Là, on est vraiment encore au Moyen-Âge. Et 50 ans plus tard, 50 ans après la mort de François, va naître Giotto, qui va, lui, en fait, finalement, même si c'est avec beaucoup de retard, presque un siècle, hein, va finalement essayer de traduire François dans l'art. C'est-à-dire, il va essayer de traduire la spiritualité de François qui se tourne vers l'homme et la création plutôt qu'une spiritualité au Moyen-Âge qui est tournée vers l'au-delà. Il y a une espèce d'attirance très forte et qui est importante au Moyen-Âge vers l'au-delà. Et François va le ramener à l'homme aujourd'hui, à cette réalité de vie de l'homme, hein, dont on parlait aussi des fois, qui va aussi se traduire par la crèche, qui va se traduire par beaucoup de choses. Et donc, Giotto, il fait quoi? Il fait à sa façon un peu la même chose dans l'art, en essayant d'exprimer François. C'est-à-dire que finalement, nous sommes dans une période où on est dans le roman et dans le byzantin, hein, c'est la même chose, dans deux directions différentes, mais on parle de la même chose, et d'un art qui est plus abstrait, qui est tourné vers l'au-delà. Et avec la Renaissance et avec François, on essaie de remettre l'homme au centre de même du tableau, dans le style, on est plus réaliste, et on va donc retrouver des styles plus représentatifs et plus figuratifs, d'une certaine façon plus près de l'homme. Hein, voilà. Donc il va se passer quelque chose à ce moment-là qui est vraiment la naissance de cette Renaissance, qu'on appelle aujourd'hui de cette Renaissance, même si ça met du temps parce que tout va s'arrêter avec la grande famine, puis la peste noire, puis la guerre de Cent Ans qui vont stopper le mouvement, et puis ce mouvement va reprendre. Les grands héritiers de Giotto, ben, ils viennent un peu de la même région, hein, le Pérugin, Pinturicchio, Raphaël, tous ces gens-là ont vécu, s'ils ne sont pas nés, en Ombrie, qui est la terre de François, et tous ces gens-là vont aussi nous parler de la foi à leur façon. Et donc ce voyage, il propose un peu de faire ces liens et puis de rencontrer cette terre qui est très riche, qui est très belle, d'aller dans des petites églises, même des fois d'un village où on tombe sur des fresques magnifiques du Pérugin ou d'un autre. Donc c'est une terre qui est généreuse, et là-bas la Renaissance elle est un peu partout. Donc c'est un peu de montrer ce dialogue entre l'art et la foi qu'on voit de façon très marquée à cette période. Voilà un petit peu l'objectif de notre voyage.
Merci Alain. Donc on attend avec impatience la date de la troisième et dernière conférence avant ce voyage. Ce sera donc probablement en mai. Et les dates donc seront mises sur le site de la paroisse, voilà, pour que chacun puisse y participer. Je remercie à nouveau le Père Chavannes, le Père Delors Laval également, de nous avoir permis de tenir cette conférence. Et je vous souhaite une très bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Bonne soirée.